Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Message à caractère informatique, épisode 150. C'est un numéro spécial de Jazz et les 150, mais aussi on n'est pas au bureau comme d'habitude. Cette fois, on est dans un salon, mais je vais vous donner plus de détails. En attendant, je suis accompagné aujourd'hui, et ça c'est nouveau, par notre responsable marketing.
Bonjour Horacio.
Bonjour.
Je m'appelle Karine, certains m'ont déjà croisé à droite à gauche. Je suis parmi les personnes qui sont derrière les profils réseaux sociaux de Clever Cloud, derrière la communication de Clever Cloud. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce tout premier épisode de Message à caractère informatique. Pour moi, c'est mon baptême de Massy.
Voilà. Et tu peux raconter où est-ce qu'on est alors?
Tout à fait, on est au FOST, donc le FOST, ça s'appelait anciennement API Days. API Days, donc c'est un salon qui est connu et qui est décliné à l'international, qui est très très connu. Et sur Paris, on souhaitait cette année faire un événement qui regroupe de nombreuses conférences, dont API Days, qui devient une de ces conférences-là. Le FOST donc regroupe aujourd'hui une vingtaine de conférences et on a profité avec Clever Cloud pour organiser la petite sœur du Clever Cloud Fest qu'on avait fait en février. Petite sœur qui s'appelle aujourd'hui l'Access, donc qui a lieu jeudi 11 décembre. Pour Access pour Amazing Clever Cloud Enterprise Summit, un nom qui nous a voilà. Fait marrer. Et voilà,
un acronyme bien trouvé. Et donc, quitte à être là, bah, on a un pavillon pour nous avec un stand, mais aussi des stands pour nos partenaires.
Tout à fait. Avec nous, on a 14 partenaires, des partenaires business, des partenaires technologiques, des startups du programme Up, des partenaires de notre marketplace. Et on a la chance aujourd'hui aussi de pouvoir les avoir sur ce podcast.
Bon, bah, on va commencer donc avec les deux premières. Et donc, on a dans l'ordre qui sont là, Geoffroy Perrin de Norma. Geoffroy, tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Oui, alors bonjour. Moi, c'est Geoffroy Perrin, donc je suis le cofondateur de Norma. Je suis développeur informatique à la base. Nous, chez Norma, on fait de la data, tout ce qui tourne autour de data, IA. On installe des systèmes agentiques chez nos clients. Toutes les solutions de web aussi qu'on peut développer. Et on a une partie produit qui permet de tester les agents IA. Parce que c'est une partie très importante de faire de la QA sur les LLM et sur les agents IA.
Nickel. Et on a aussi Quentin Vigneault. Quentin, toi tu représentes Cadence CI?
Oui, tout à fait. Donc bonjour Horacio, bonjour Karine. Donc Cadence CI, ce que nous faisons, c'est essentiellement de la simplification des processus DevOps et MLOps. C'est vraiment un outil technique à destination des techniciens, basé sur la technologie Melodium, qui est un langage de programmation et un système d'orchestration d'infrastructures. Donc on vient s'insérer dans les projets qui sont déjà existants, qui ont un certain niveau de complexité, pour lesquels la maintenance est devenue compliquée et les coûts de run et humains de maintenance sont devenus relativement conséquents et handicapants.
Nickel. Bon, bah, ça fait super plaisir de vous savoir là, déjà. Bon, on a plein de trucs à raconter, donc, mais on va commencer par vous. Pourquoi vous avez décidé de nous accompagner dans cette aventure au FOST? Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que vous voulez présenter? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant en étant là dans l'écosystème Clever Cloud? Oh va, parlez de augmenter.
Allez, tous en même temps. Donc oui, nous ce qu'on est. Alors déjà, je tiendrai à remercier Clever Cloud parce que vous nous avez invités et c'est vraiment très sympa de votre part. Au-delà de simplement du support déjà que vous nous amenez au quotidien avec le programme Up. Qui est donc le programme d'incubation de Clever. Donc nous, ça fait deux ans quasi, non un an et demi, un an et demi que vous nous accompagnez.
Vous faites partie d'une des premières.
La première.
Et oui, tout à fait. Donc ça nous a permis de développer, alors certes la partie technique, d'avoir un support au niveau de l'infrastructure, et ça c'était vraiment bien, et en même temps d'avoir un support commercial, parce que nous dans notre boîte on n'est que deux et nous n'avons pas de commerciaux. Avoir quelqu'un qui est simplement là pour nous épauler, pour nous dire oui, ça peut être une bonne idée, ça un peu moins éviter. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est très précieux à notre échelle. Donc merci. Et donc oui, on est venu au FOST sur invitation de Clever Cloud pour nous présenter à davantage de monde, puisque on est un projet qui débute et on cherche essentiellement à voir qui serait intéressé pour développer avec nous notre technologie qui est donc en cours de développement et qui est encore très malléable.
Nickel. Et toi?
Mais en fait, nous, c'est presque la même chose. Enfin, on est 18 au sein de Norma, mais on est que des ingés, en fait. Donc, il n'y a pas du tout de fonction support. Donc, on cherchait aussi à avoir une certaine visibilité et de rencontrer du monde et d'autres entreprises qui peuvent adhérer à notre projet, qui peuvent tester notre produit pour voir si ça plaît et si on peut le développer à grande échelle avec eux. Donc, nous, on s'était dit, on veut tester les LLM et les agents IA, parce que c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et on a tendance souvent dans le dev à oublier la partie test et QA. On se dit, oh, ça on fera après. Alors, quand on fait du test web end-to-end, bon, c'est relativement facile. Quand on commence à toucher au LLM et à l'agentique, c'est plus compliqué. Donc, si on fait une fois là, on se dit, oui, oh, bon, ça marche, ouais, une fois. On refait une deuxième fois, ah non, ça ne va pas être la même chose. Donc là, en fait, on a un système qui permet de faire en plusieurs fois et on essaie de voir si les entreprises sont OK et ouvertes à ce marché et ce qu'ils pourraient utiliser le produit. Alors, vu que c'est un peu technique, on essaie de les accompagner dans ce système-là. Donc, notamment à travers le hub, le déployer en un clic. Par exemple, une solution de test en un clic. Ça, c'est sur la marketplace, c'est quand même génial. Donc, voilà, c'est ce qu'on essayait de démocratiser.
Nickel. Bon, bah, et Karine, ton premier merci depuis le temps. Donc, toi, tu es le cerveau derrière ces participations de Clever au FOST. C'est toi qui a notre chef à tous ici, qui a tout coordonné. Alors, qu'est-ce que tu penses de comment ça démarre les...
Ah, moi, je trouve ça assez impressionnant le nombre de personnes présentes sur le salon. Ça ne désemplit pas même quand les conférences sont lancées. À savoir, donc c'est la première édition qui tente vraiment le FOST et ils ont eu 8000 inscrits, ce qui est absolument énorme. Je pense que ça fait de l'une des plus grosses conférences de France.
Pour les techos, c'est des fois des box. Vous voyez.
Donc ça doit faire la plus grande conférence de France du coup. C'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont fait est assez dingue parce que d'aller chercher différentes conférences qui sont toutes tech, mais ont toutes des sujets différents. Par exemple, il y a Green.io, il y a une conférence qui est dédiée plutôt à la résilience, beaucoup de générations AI. Il y a une conférence, on pense notamment à nos amis Linagora, OpenLLM. Il y a de nombreuses conférences comme ça qui permettent de couvrir l'ensemble des sujets l'ensemble-ish de l'IT aujourd'hui et des sujets qu'on voit le plus souvent. Donc, c'est assez impressionnant. Et on les remercie beaucoup de nous avoir invités parce que ça nous permet, nous, de venir présenter nos nouveautés, nous projeter aussi sur 2026 parce que en février, on a présenté les annonces 2025. Là, on va pouvoir dire un peu où on en est, les produits qui sont prêts, qu'on va pouvoir annoncer jeudi, qu'on peut déjà teaser parce que...
On va spoiler un petit peu quelques-uns parce que c'est enregistré, donc vous allez avoir les annonces en live avant d'écouter ce podcast.
C'est exactement. Donc, les gens qui sont sur le salon et qui nous entendent actuellement parce que on est dans une sorte d'aquarium, mais il y a des haut-parleurs, vont pouvoir découvrir ces annonces et être spoilés en amont. Mais on profite de ce moment-là pour les faire. Donc, notamment avec une grosse annonce qui est le lancement en bêta de notre offre Kubernetes. Je pense, Horacio, que tu peux nous en dire un petit peu plus.
Ah bah... Depuis le temps, oui, chez Clever Cloud, on a un Kubernetes manager. Je ne sais pas trop pourquoi on avait une réputation de ne pas être trop pro Kubernetes. Il n'y a rien de plus faux. Kubernetes, c'est un super outil pour certains use cases. Il se trouve que pour plein d'autres use cases, c'est un peu exagéré, mais pour les use cases, on a besoin d'avoir un orchestrateur qui déploie et qui contrôle les cycles de vie de plein d'applications complexes sur le même cluster. Kubernetes, c'est parfait. Donc, il est un bon outil pour son use case. Nos clients nous le demandaient. Bon, bah, il est logique qu'on décide de sortir notre propre Kubernetes. Mais façon clever. Parce que, bien entendu, un des points faibles de Kubernetes pour avoir une offre managée multitenant a toujours été les etcd. D'ailleurs, la plupart de nos concurrents qui le disent ou pas, la première chose qu'ils ont changé dans leur Kubernetes, c'est etcd. Sinon, ça tient pas la charge nécessaire pour un cloud provider. Ou tu te retrouves avec des centaines de clusters etcd, ce qui est un cauchemar à manager. Donc nous, on a remplacé etcd par notre implémentation serverless sur nos technomateria, materia etcd. Donc on a un nouveau Kubernetes manager. On l'a mis dans les mains de nos clients. Pour le moment, les retours sont très positifs et j'ai hâte de qu'on lance la bêta publique pour pouvoir avoir accueillir encore plus de monde. Et bon, bah, avant de dire au revoir à nos deux premières invités à accueillir les suivants, donc si tu voudrais mettre, Geoffroy, tu voudrais mettre quelque chose en avant par rapport à Norma, laisser, qu'est-ce que, en une phrase ou deux, tu voudrais laisser comme, qu'est-ce que c'est Norma, pourquoi s'intéresser, allez, c'est le moment de...
Alors, donnez-nous votre IA et pour nous faire confiance et nous allons en faire de votre outil quelque chose qui soit vraiment qui soit vraiment fiable et efficace pour votre marché.
Parfait. Vous voulez fiabiliser votre IA, allez voir Norma. Et Quentin?
Et pour nous, je dirais venez nous voir pour qu'on construise ensemble la prochaine étape dans le monde du DevOps.
J'aime bien cet slogan. Bravo.
On recrute au marketing.
Non, mais là, on voit que niveau création des slogans, ils sont très forts tous les deux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Geoffroy et Quentin, il y a à peine un quart d'heure, ils ne savaient pas qu'ils allaient participer à ce podcast. Donc, je tiens à les remercier encore de s'avoir laissé traquenarder, c'est un mot, oui. Traquenarder pour cet enregistrement. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Il y a des surprises qui plaisent.
Et on est à nouveau là. On a repris avec de nouveaux invités, mais moi aussi avec un nouvel partenaire. Ce n'est plus Karine, c'est Quentin. Bonjour Quentin, ça fait plaisir de t'avoir ici pour un massif.
Je pense que j'ai déserté les massifs beaucoup trop longtemps, Horatio. Je m'excuse auprès de ceux qui aiment bien quand je passe.
Bah, je pense que tout le monde adore quand tu passes. Pour un épisode 150, ça fait vraiment plaisir de t'avoir là.
Je pense que c'est important que les gens se rendent compte que, ok, l'épisode est un peu particulier, mais ce que l'équipe de Mehdi a fait autour du FOSS est vraiment très important parce qu'en fait, c'est en train de rassembler énormément de communautés toutes autour d'un seul événement et c'est vraiment, il y a énormément de rencontres, énormément de gens, ça percole dans tous les sens, c'est génial.
Ah bah, c'est aussi, j'ai croisé des profils très différents, j'ai croisé des développeurs, j'ai croisé des profils CTO, j'ai croisé des profils plus marketing, il y a énormément de monde partout, et je trouve que c'est une belle rencontre. Bon bah, on a des nouveaux invités pour cette partie-là, donc on a d'abord Fabrice Croissot de Intech. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour et merci de l'invitation, on m'a dit.
Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter qu'est-ce que c'est Intech et qu'est-ce que vous venez présenter ici au FOST?
Yes. Donc Intech, c'est une filiale de la Poste au Luxembourg, qui on est l'ESN de la Poste en fait. Donc,
peut-être pour les participants qui ne connaissent pas, la Poste au Luxembourg, c'est toujours les PTT. Donc ça,
oui,
fait la Poste, ça fait la télécommunication.
Télécom, finance, courrier, logistique encore.
C'est une grosse banque. Et c'est aussi eux qui font les drones militaires, si ma mémoire est bonne.
Ils font des drones, effectivement aussi, militaires, je ne sais pas, mais des drones, oui. Ouais, ouais, c'est clair. Et ils sont très, très forts aussi dans la cybersécurité, notamment pour les couches bas niveau, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est SMS, etc. Et donc, nous, on est l'entreprise de services numériques, l'ESN. Donc, on fait du dev sur un peu toutes les plateformes. Et là, ici, on vient surtout axer la présentation sur un écosystème agentique qu'on a créé. C'est un framework, en fait, c'est pas un produit qu'on vend sous forme de licence, mais c'est plus un framework qu'on déploie d'ailleurs chez Clever, c'est pour ça qu'on est là, parce que les démos qu'on fait ici sont des démos qui tournent sur Clever. L'ambition, c'est aussi d'ajouter ça dans un store ensuite pour permettre à des clients d'utiliser des add-ons pour configurer directement leur agent. Donc on fait pas d'IA, en fait, moi j'aime bien dire, on fait pas d'IA vraiment. Pourquoi? Parce qu'on fait pas de l'apprentissage, mais on va mettre la glue qui va faire en sorte de connecter tous les building blocks qui permettent ensuite de faire une solution pour les utilisateurs finaux. On va connecter des bases de données vectorielles, des endpoints LLM, des interfaces MCP ou OpenAPI, etc., etc. Mm-hmm. Tout ça autour pour faire en sorte que l'utilisateur il ait son écosystème qui est prêt. On avait fait un peu la même chose il y a maintenant 25 ans environ, quand les tout premières applications, application servers sont sorties. Quand Java est créé, moi, le premier projet que j'ai fait, c'est j'ai développé un application server, en fait, en Java, avant tout le monde. Wow. D'ailleurs, mes deux collègues sont allés bouchés, c'est Sean et, chez Sun et Google pour faire les refap. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui dans la même situation, puisqu'on parle beaucoup d'agentique, beaucoup d'IA. Mais en fait, il n'y a pas encore de vrai standard autour de ces écosystèmes, ça va venir, hein, assez, mais nous on est déjà là et puis on va progressivement en fait intégrer les standards au fur et à mesure où ils émergent chez les gros acteurs. Aujourd'hui, on a une solution qu'on déploie très très vite, qu'on arrive à déployer très vite sur les clients et qui fonctionne aujourd'hui.
Excellent. Bah merci beaucoup. Et à côté, on a Adrien Grisot de Redirection.io. Redirection.io, on a déjà fait des massifs tours et on a fait des streamings. Ensemble, mes types, déjà te présenter un peu qu'est-ce que c'est Redirection.io et qu'est-ce que vous venez présenter concrètement au FOST?
Oui, bien sûr. Adrien, je suis sales pour Redirection.io, ça fait 4 ans maintenant. Je m'occupe aussi en partie des partenariats. Redirection.io, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, on est, pour ceux qui ne le savent pas, on est partenaire avec Clever Cloud. On a une solution qui permet d'augmenter la délivrabilité en SEO technique pour les sites e-commerce, mais pas que, pour tout ce qui est médias et ainsi de suite. La plateforme qu'on a pu développer, elle a permis au début de pouvoir faire des redirections de manière autonome en s'affranchissant du fichier HTTPS, des développeurs aussi, parce qu'on sait que les développeurs sont souvent très débordés, ont beaucoup de choses à faire et que leur créer un ticket, c'est leur ajouter parfois du développement inutile. Donc voilà, on permet aux équipes SEO, marketing et e-commerce de s'affranchir de la tech pour pouvoir optimiser le trafic HTTP de leur site. On est une
très important aussi peut-être pour les migrations. Peut-être du coup vous facilitez énormément les migrations.
Voilà,
d'un produit à un autre en conservant les trafics et les points de PageRank durement gagnés.
Tout à fait. Oui, en fait, c'est tellement devenu une évidence que j'oublie carrément d'en parler parce que c'était la première brique de la solution. Donc de faciliter les migrations, de générer maintenant, parce qu'on a ça fait partie de nos nouvelles features. Alors, je peux en parler au FOST. On a un générateur de plans de redirection. On utilise un peu d'IA, donc on peut, avec une URL A et une URL B d'une nouvelle mise en prod, enfin d'une nouvelle prod, avoir tout le plan de redirection, le charger au sein de notre outil, vérifier que tout va bien se passer et faire une mise en prod de manière très sereine.
Nous, je sais qu'on s'en est servi aussi quand on a fait notre grande migration de domaine, parce que nous, on est en train de faire notre grande migration de domaine. On passe de clever-cloud.com à clever.cloud. Ça fait des années qu'on veut faire ça, mais c'est, en fait, les gens s'en rendent pas compte, mais une migration comme ça, c'est un enfer sur Terre. Tous les plateformes de paiement, c'est l'enfer. Les plateformes d'audience, c'est l'enfer. Enfin, tous ces sujets-là deviennent très rapidement un enfer et vous aidez énormément à passer de l'un à l'autre, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est une partie, donc les migrations sur lesquelles on a une grosse valeur ajoutée, mais aussi au quotidien, lorsqu'on veut réparer des petites pétouilles, changer du contenu sur son site, on a des pages qui changent, un article, une collection, et ainsi de suite. Donc c'est les gros chantiers, les migrations, c'est souvent pour ça qu'on vient nous chercher, et ensuite au quotidien pour avoir une vie un peu plus sereine.
Voilà, j'aime bien les
sultans. Je m'en suis servi récemment, moi, sur un projet side. Sur un use case qui était pas connu des gens mais qui est intéressant, c'est en fait au lieu d'avoir un CMS sur ce projet-là, j'ai un site qui est intégralement généré au Gemini comme un gros sagouin à grands coups d'IA et mais qui du coup est super joli, super cool, mais pour maintenir en fait la cohérence de contenu du truc, je me sers de Redirection.io pour en fait lui dire bah le site est parti de là, le truc va là, comment tu te débrouilles pour que je perde pas du contenu entre les deux, alors qu'en fait le site à la fin c'est essentiellement du statique. Bon, c'est du statique embedé dans du note, parce que tant qu'on y est, allons-y comme des porcasses, mais ce genre de choses. Et donc je trouve que le produit, il est d'autant plus pertinent dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il va vous permettre de rattraper vos petits pendant que vous êtes en train de faire les gros porcasses marketing sur le truc.
Ouais, c'est un use case que je connaissais pas, mais ouais, ça peut en faire partie. On a des applications qui, enfin, on peut tout faire vraiment. Et si vous voulez, je pense que je pense que toi t'as plus le temps de te mettre les mains trop dans le code, mais on a l'agent V3 là qui sort et qui va être disponible. D'ailleurs, on est en train de voir pour le déployer chez un client qu'on a en commun, qui va être donc évidemment plus rapide, va permettre de faire du blocage de selon la géolocalisation, du blocage d'URL, de bots. Et aussi de pouvoir mettre du cache pour pouvoir aller encore plus rapidement pour resservir la requête.
Ah, vous intégrez du cache dans l'agent maintenant ?
Oui.
Excellent.
Mm-hmm.
Et sinon, en réponse, oui, théoriquement, il n'a plus le temps de mettre les mains dans les codes, mais Quentin, il est...
Je ne voulais pas t'offenser. Hein.
Je ne sais pas...
Ah non, alors, je continue à foutre des mains dans le code, et c'est la peur bleue de toute la boîte.
Mais il continue à le faire, c'est pas seulement qu'il peut, mais il le fait, il continue à trouver le temps de mettre les mains dans les codes.
Pour être tout à fait sincère, je me réveille en ce moment une fois sur deux le matin, endormi à moitié sur mon ordinateur comme une merde dans le lit.
Une fois que tous les autres 25 millions de choses de la journée sont finies, c'est là qu'ils s'attaquent au code. Bon.
Pour se reposer.
Voilà. Cool. Juste pour compléter, parce qu'en fait, moi, je suis une tech, mais la solution dont j'ai parlé, ça s'appelle Brain. C'est pour Sovereign Brain. On a collé tout ça. Ah. Et en fait, pour ceux qui veulent aller voir, c'est brein.eu. Donc, parfait. On a un site qui explique en détail tout ce qu'on fait en anglais, en français. Donc là, vous verrez.
Et vous l'avez collé en open source ou c'est du...
Oui, c'est de l'open source, ouais.
Et c'est, en fait, c'est codé comment?
Pardon?
C'est codé comment? C'est quoi l'architecture de code du truc?
Ah, bah, en fait, c'est du Next.js sur le front, du Nest.js sur le serveur. En DB, on a du Postgres. On a du Mongo et on est en train de bouger vers comment il s'appelle la partie doc là qui est sur PostgreSQL ou DocumentDB, voilà, ça je suis plein. On a aussi pour l'instant sur la partie vectorielle.
T'as vraiment besoin des fonctions de Mongo, tu peux pas tout faire dans PG sans t'en.
C'est ce qu'on veut faire là maintenant. Et idem pour la partie vectorielle. Aujourd'hui la partie vectorielle elle est sur Weaviate et là on la bouge sur PG Vector parce que ça suffit largement.
Excellent. Donc on a directement sur Etailleur tout ce qu'il faut parce que en plus, on supporte DocumentDB maintenant, donc on a Vector, Payé Vector aussi, donc c'est nickel. Hein.
Et en fait, là, on n'est pas encore connecté à des endpoints LLM sur Clever, mais c'est la prochaine étape, c'est de faire ça aussi.
Bah, on peut bricoler ça avec le truc qu'on fait avec Autoroshi.
Ouais.
Avec Autoroshi ou LLM, où je pense que c'est assez pertinent et complémentaire. Ouais. Ou directement dans CleverEye, si on veut simplifier, parce que CleverEye est plus simple, mais en fait, ben derrière, c'est Autoroshi qui fait le boulot, en fait. Hein.
Ouais.
Le produit qui a été développé à la base par la Maïf et qui est maintenant beaucoup travaillé par une boîte qui s'appelle Cloud Apim, qui travaille sur ces sujets-là. L'autre intérêt, c'est qu'on peut mettre du biscuit là-dedans, et surtout qu'on peut faire la quantification, parce qu'en fait, le problème d'une grosse boîte, c'est... je grille combien de tokens, quand et à quel moment, et qu'il y a un léger enfer. Dès que tu commences à l'utiliser dans ton produit... Enfin, coder avec, c'est ton abonnement, mais dès que tu commences à le coder dans ton produit, tout de suite, c'est un peu important. Là, j'ai un des produits qu'on est en train de coder avec des potes où globalement, on analyse tous tes mails. En fait, passer sur ma boîte mail à la journée, ça coûte assez cher chez moi.
Okay, oui. Et aussi, il faut qu'on puisse, nous, en fait, parce que l'écosystème d'agents, en fonction des agents, on va se connecter à des LLM différents. Quand on est sur des agents qui font du marketing, qui ont vocation à donner des données dans le public, là, on peut aller sur des agents, sur du chat GPT public, etc. Ouais. Par contre, si on commence à avoir des statistiques sur des salaires, des trucs comme ça, là, on va pas vouloir. On va avoir des choses qui sont beaucoup plus spécialisées et qui vont être privées. Donc, en fait, on peut aussi définir, en fonction de l'agent, voire de la tâche, quel LLM il utilise. On gère, nous, tout le contexte de conversation.
Je pense que quand Mathieu Anslan de Cloud Apim sera là demain ou après-demain, il va falloir que vous discutiez parce qu'il y a des complémentarités carrément entre le côté Autoroshi, que c'est une gateway API, mais Autoroshi pour LLM, c'est une gateway pour l'LLM. Et ce que vous faites, sont tous les deux open source, donc il y aurait carrément un truc à voir ensemble.
On verra demain.
Du coup, c'est assez intéressant parce que là, du coup, on dit tous que nos produits sont en train d'intégrer l'IA. Donc, on voit que l'IA est en train de ceinturer la totalité de nos produits. Et en même temps, on a tous cité un certain nombre de produits qui étaient américains. Et ce week-end, on a tous pris, je pense, une petite bombe dans la gueule. C'est, vous avez lu le National Security Strategy document de Donald?
Oui, bien sûr.
Oui, mais je pense que certains de nos auditeurs, non. Donc, tu nous fais le résumé.
Ah bah, vous avez un document d'à peu près 30 pages sur le site du Pentagone, que le document de la stratégie sécuritaire à venir des États-Unis. Donc, c'est un document qui est régulièrement publié aux États-Unis à peu près une fois par mandat. Le président rédige en disant qu'est-ce qu'on fait dans la stratégie des États-Unis. Et là, la strat des États-Unis, c'est clairement bon, bah l'Europe va se démerder toute seule, quoi. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris, moi ça fait jamais 15 ans que je vous dis que ça va se finir comme ça, donc voilà. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ce ne sont plus nos alliés.
Oui.
Du coup, faudrait peut-être se mettre à construire des choses pour être capable de construire sans, parce que là, en fait, on est tous intégralement dépendants en IA. Enfin. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sait se débarrasser de Claude Code, là, dans son organisation?
C'est clair, non, on peut pas aujourd'hui. Et il y a aussi un autre message que les gens disent, oui, mais tout ça, c'est une bulle, ça va péter, la bulle AI, c'est, moi, je pense pas du tout, parce que, en fait, nous, on voit encore en Europe l'AI comme un domaine économique. Pourquoi ils disent que ça va péter? Parce qu'on va pas faire autant de revenus que ce qu'on injecte de milliards dedans. Mais, dans le secteur de la défense, on se pose pas la question. Dans le secteur de la santé, on se pose pas la question. Et en Europe, on traite encore le numérique en général, le cloud, l'AI, comme des secteurs purement à vocation économique où il faut qu'on gagne plus d'argent qu'on en met, alors que les Chinois, les Américains, ils le traitent comme un secteur stratégique. Ils se posent pas la question combien ça va nous rapporter, et ils disent quel pouvoir ça va nous donner. Et moi, je dis, il faut comparer le numérique en général, mais l'AI encore plus, le cloud aussi, au secteur de la santé ou de la défense. Parce que quand on achète des mirages, on se dit pas combien ça va nous rapporter. On se dit comment on va développer notre pouvoir en fait et notre indépendance aujourd'hui. Comment on va développer ça? Et en Europe, on a encore à se poser ces questions-là, alors que les autres pas. Et c'est bon, voilà. Je pense que ça vient tout doucement. Ces messages de Trump-là nous aident à prendre conscience, mais c'est quand même long. Et puis même en discutant avec des politiques, eh ben parfois ça. Ça les réveille un tout petit peu, mais après, on revient au...
C'est une super opportunité.
C'est compliqué, ouais.
C'est une super opportunité.
Moi, je suis toujours très surpris par le manque de compréhension de combien notre monde bouge. Moi, quand j'ai créé Clever Cloud, on m'a expliqué que le marché du cloud était une lubie qui durerait 6 mois. Quand avant, j'avais créé Yajas, on m'a expliqué que le JavaScript server-side, c'était une mode très passagère. Il fallait que je retourne à l'école. Le JavaScript, c'était fait pour le client. Aujourd'hui, enfin, on voit bien, et je pense qu'il y a un manque de vision totale de ce que la totalité du numérique est en train d'imposer, en fait, comme changements sociétaux. Et aujourd'hui, c'est pas pris en compte. Et ce problème-là, il est, à mon avis, majeur, parce qu'on se retrouve avec des gens qui te disent, ah oui, mais c'est quoi le secteur? Enfin, si on prend le secteur du e-commerce, par exemple, ça c'est important. On te dit, oui, on a un problème, les agriculteurs se font massacrer par les grands distributeurs. Ok, on peut prendre le breakdown de ça. Un supermarché, c'est quoi? C'est 5% de marge sur l'alimentaire qui permet de tenir la lumière allumée et donc de chauffer l'endroit, etc. Et 20 à 30% de marge sur le non-alimentaire. Quand le non-alimentaire, les achats, ils sont sur Amazon et AliExpress et qu'il n'y a plus d'achats non-alimentaires, bah en fait, les mecs sont obligés d'aller faire leur marge sur l'alimentaire. Et donc, du coup, on se retrouve avec un problème structurel de notre économie et de notre agriculture. Et en fait, c'est tout est comme ça. Si on prend le revenu de la pub dans les journaux et le revenu de Google, c'est un X. C'est-à-dire que les journaux se sont fait capturer leur marché par Google. Et après, on vient me dire, oui, il y a un énorme problème, on se retrouve avec des médias d'opinion. Pourquoi vous avez des médias d'opinion, d'après vous? CNews, c'est possible parce qu'en fait, iTélé perdait de l'argent. Et donc, on a des milliardaires qui peuvent acheter des médias et en construire des médias d'opinion parce que ça ne vaut rien, en fait. Parce que l'opinion peut être déficitaire, mais parce que les médias ne gagnent plus d'argent. La démocratie, elle repose là-dessus. Et donc, en fait, l'ensemble des changements qui sont aujourd'hui impulsés par le digital et le numérique sont des changements sociétaux, effectivement, de comment on se nourrit, de comment on s'informe, est-ce que la démocratie fonctionne, quels sont les boulots. Comment on va faire pour avoir les bullshit jobs qui font tenir la défense une fois qu'on a l'IA? Entre demander 3 fois à Jean-Marc d'envoyer des emails ou demander à l'IA 1 seule fois, franchement, on sait tous comment ça va finir. Et je pense qu'il y a un vrai, vrai manque de prise de conscience d'un certain nombre de gens là-dedans. Et du coup, on ne laisse pas des vrais techniciens piloter la transformation. Parce que la transformation ouvre plein de jobs et plein d'opportunités fabuleuses. Par contre, il faut la piloter pour éviter de passer notre temps à courir derrière en essayant de dire « Ah, attends, comment on va gérer le problème, là ?»
Claire.
Mais là, le problème, c'est que pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas de prise de conscience. Pour moi, c'est une volonté active de mettre la tête dans le sable et dire non, 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 rien n'est chance. C'est, ça va plus loin. C'est ne pas vouloir les voir. On va mettre un peu de réglementation, on va mettre un peu de contrôle et rien ne va changer. Et pour moi, en fait, les choses sont déjà changées. C'est pas la IA. C'est, ça fait 20 ans que le mouvement est enclenché. Et donc, à un moment donné, il va falloir sortir la tête de sable et dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, mais même pire que ça, au niveau européen notamment, même au niveau national, en fait, on se coupe la branche sur laquelle on est assis en disant, attention, pour la concurrence, il faut faire des appels d'offres, mais on n'a pas le droit de privilégier des Américains, des Européens, etc. Il faut ouvrir, et puis surtout, on ne peut pas même pas autoriser un pays, par exemple, à choisir ses prestataires chez lui, à forcer ça, c'est interdit par l'Europe. Parce que c'est une prérogative de l'Europe.
En fait, non, mais c'est une folie furieuse. C'est imaginer que Clever Cloud se pointe sur le contrat de Jedi de la zone gouvernementale américaine. On sait tous que je ne vais pas le gagner, le contrat. Ça ne sert à rien que j'aille faire l'appel d'offres. Oui, oui. Par contre, il faut que je justifie de ma propre francité pour gagner un contrat où, en fait, la majorité aujourd'hui du cloud computing de l'État français est encore fait chez des Américains. Enfin, c'est quand même hallucinant comme situation, quoi.
Oui.
Et quand on me dit qu'on va pas faire ça, j'ai quand même l'Adinum qui me dit « Ouais, mais on va refaire ce que fait Clever Cloud en open source à 3.
Bien.
En tout cas, avant de vous laisser partir, parce qu'il y a nos prochains invités qui sont là, allez, un dernier rappel, façon et slogan à Infrastructure, Redirection IO. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez que nos auditeurs se souviennent? Intech et votre produit LLM, qu'est-ce que c'est? Quel message vous voulez faire passer rapidement? Allez, qui se lance?
Vas-y, je vous
prie. Allez, donc nous, en fait, pourquoi on a créé Brain? C'est pour permettre à nos clients d'avoir un écosystème d'agents qui soit complètement, enfin souverain, c'est un bien grand mot, qui maîtrise de A à Z, en fait, tout ce qui est possible. C'est pour ça qu'on est allé sur Clever Cloud, parce qu'on est en Europe, on est en France. C'est pour ça qu'on a développé nous-mêmes tout le code source qui se connecte aux différents modules dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce code source-là, on le déploie chez les clients, on le déploie on-premise, on le met à disposition sous forme de SaaS, mais en tout cas, il est 100% maîtrisé, 100% européen. Et donc, c'est notre ambition, c'est d'avoir un niveau de permettre à nos clients d'avoir la même compétitivité qu'ils auraient en utilisant des produits soit de chez Google, soit de chez OpenAI, mais avec un stack qui soit 100% européen.
Merci beaucoup, Fabrice. Et de ton côté?
Et de notre côté, Redirection IO, c'est dès qu'on est intéressé un petit peu par l'analyse de log et savoir un peu comprendre tout ce qui se passe sur son site en termes de trafic HTTP, de pouvoir repérer les erreurs et ensuite de pouvoir les corriger au sein de notre interface sans forcément avoir de connaissances en tant que dev, eh bien, c'est vers nous qu'il faut se rediriger.
Bah, merci beaucoup à tous les deux.
Merci. C'est
un plaisir de vous savoir là. Merci.
Merci. Merci à vous.
So, we are back. And we are back in English. It's a first for the Massey.
Yes, I think it's the first time. Man.
But maybe people who are listening to us are listening to us in French.
Yes, because we will try to make it in doubling stuff. So we will try and maybe it will work. I don't know.
And why we are in English? Because we have two more partners of Clever Cloud here, and we are going to introduce them. Let's begin with Anaïs Concepción. Mm-hmm. Anaïs, can you introduce yourself and introduce Grist?
Yeah. So my name is Anaïs. I'm co-CEO at Grist. Grist is an open source spreadsheet, no code platform. It's taking the ability to build apps in a spreadsheet and just making it better.
Wow. And Fabian? You are from Alpha Edge. Can you introduce yourself and Alpha Edge?
Yes, I'm the CEO of Alpha Edge. At Alpha Edge, we are building tiny AI model. We are an alternative to LLM and big actor of AI. And we believe that we can, with low resources, build very efficient model.
Wow.
That's awesome.
Hmm?
That's awesome. So the first time I met Alpha Edge, it's because basically we are working in with the same customer together, and we just have a look on the results of the Alpha Edge information taking on document, and it was like really, really fast, really good, and with a very low power consumption. So can you describe a little bit how do you do this kind of stuff? Is it open source, not open source? What is your model? This kind of stuff.
Yeah, I will try to summarize it, but I have exclusive information for you because we just finished like 2 days ago a benchmark, because we made a first benchmark against Gemini, and we are 150 times more quick than Gemini to digitalize some documents, and the performance is quite egal. 90.7 equivalent. But our challenge was to compare the OCR model of Mistral, which is one of our competitors in France, in comparison to us. And the result was very good because our model digitalizes 7 times more quickly than Mistral to digitalize, and also it's more efficient. It's more than 10 points of precision better than Mistral. So it's just better, and that's the good news for us. And with this good news, our first client in common asked us to build 22 more POC. So we are in full development, and actually I was sleeping quite late this night because I was working on the new deal with his bank.
Good news.
Yeah, the news are very good for us.
Nice. And Grist is way more than an spreadsheet.
Yeah.
Because most people think Grist is a spreadsheet, but when you begin to touch, you discover that there are lots and lots of things. It's really powerful.
Yeah. Yeah, so we say it's a spreadsheet to begin with, because that helps with the adoption. It feels more usable. It's less scary to end users because it's really end user productivity software. So while our champions might be technical people, the people on their teams aren't. So we say spreadsheet, it's less scary, but you're absolutely right. It's way more than a spreadsheet. And one of the things that really sets Grist apart from all the other spreadsheet database hybrids that are out there is it's really tackling the collaboration problem, which was a very hard problem. So tools like Airtable or Baserow, they did the spreadsheet database hybrid part, the relational structure, which was important. It made the solution easier to scale, but you don't have real access controls. And Grist's role-based access controls let you work on the same spreadsheet. We could be working on the same database, but we'll see different columns, different rows, different tables, even as things update in real time. And that makes it feel more like a real app builder because it has that security feature. And then, of course, it has the extendability with the custom widgets, and the API is very robust. And all of a sudden, everyone who's technical gets very impressed, and end users, they're just using a spreadsheet. So it bridges that gap.
Okay. Yeah, really, you need to figure out Grist, not that you're Excel killer, but it can replace lots of the Excel usage because you will not have to put an Excel in copy of a mail. So you will solve the problem of who is opening the doc when.
Yep.
But more, it's more comparable for me to Access or to Airtable, all this kind of stuff. So
yeah.
Each time you are using Excel as a database, which is a lot of usage in corporate enterprise environment, Grist will be very useful. If you want to do hardcore math stuff, maybe it's not the best solution there. But for a real usage of using Excel as a coordination software and as a database, it will be way more powerful and way more interesting. And then you will have API, you will have access to your data, you have management. So it will be like way more interesting for the users and to do it. Mm-hmm. And you can host it yourself. There is also an hosted version of Grist, and there will be an hosted version on Clever Cloud. We are just finishing up.
Yep, exactly. Yeah.
Nice.
With partnership and revenue sharing and everything.
Yeah.
We are not taking open source product for ourselves and making money on top of it. We are not AWS or Microsoft.
The Clever Cloud way.
Yeah.
As we do with our partners in general.
Yes.
Revenue sharing is a great way to build long-lasting partnerships.
Yeah.
I think that's the clever explication of the cloud.
The point is, cloud computing is not only a technical product, but also a capacity to be an aggregator of technology for our customers. So that can be very interesting. And what we need to do after is creating a bounce with our partner. Like, for example, an Alpha Edge model that put data inside a Grist spreadsheet, because all you, the data you will digitalize from an OCR will going directly. Yes. To this kind of spreadsheet, and will be at some point gated by a biscuit using an Otoroshi and a keycloak. And this is the kind of stuff we need to create inside our partnership of network, and to be able to say, okay, and that can work on the cloud, but that works also on edge or on air gap situation for industrial purpose. So this is the kind of stuff we're working on. It's very complicated because it's a huge mutation of the company, and a huge work to do all this kind together. And it's at the same time that we're mutating the organization from 50 people to 100. And managing 100 people is a very huge nightmare for several reasons, even if the people are nice and wanted to go in the good direction. But the point is there, is creating a way of the partnership to do this kind of stuff. What do you see at the market for something like what you are doing at the model? Because everybody is seeing the model of OpenAI, of Mistral, this kind of stuff. How a small company can work on AI?
Yes, this is passionate because we can all think about this. There was a first generation of company making the foundation of the AI with the famous LLM. And Mistral is one of this company, also like an OpenAI. So what you can understand is we are just in the beginning of the AI area. And in this beginning, the first actor, they pay very expensive the building of their technology. As the second generation of our startup, we profit from their research. We profit from this LLM. We use some of this technology, but to build something which is more scalable, more efficient. And also, the research is making huge progress. Even this last month, I can't tell you all our secrets, but we are working in new paper, in new architecture, and for example, Yann LeCun says himself that the LLM will be never the way to have AGI, and we believe also that LLM is a good thing, like for a consumer to have some response in any kind of your problem. But as a company, LLM is an aberration because it's too huge. It can be very efficient if you have some use case that needs to be industrial. So what we build is specific model. To explain you, our model from zero can be created with only 3 months. Why? Because there's not so much parameters. We can have model with like few million parameters. It's very, very small. And so when you have not so much parameters, when your model is efficient, is clever, is think to be addressed to one use case, for example, which is I want to digitalize a document. I don't want to speak. I just want to digitalize. If you want one model just for this thing, then you have something efficient. Then you have something you can develop very fast. And when you learn to make this for one use case, you just have to change the use case, but not your secret sauce.
Yeah, and you will rebuild a model for each use case.
Yes. And after, like Lego, you know, we can add this model, making work together as a chain.
And in Grist, does the introduction of AI is something you are talking about? Because right now, the AI for documentation and text is very popular. Your voice, anything. But the point is, introduction of AI inside mathematical or spreadsheet-like, it's kind of clunky and not really interesting from there. How do you are approaching this topic and problem in your
Yeah. So one thing, so there is an AI assistant in Grist, and one of the things that makes it work a little bit better than AI add-ons to a traditional spreadsheet is Grist has a code view that has the schema written out. So it has the table names, column names, data types, formulas. That information is passed along with the user prompt, with the query. And also we have a lot of documentation that we've had for that just kind of paid off. That was just us being diligent, you know, documentation writers. So the LLMs already know a lot about Grist. So that worked out pretty well. So it right now it's mostly for writing Python formulas in Grist, building tables, building dashboards, linking tables, and reading and summarizing data. So it works pretty well. The thing we've been saying now is spreadsheets are used for all kinds of use cases. So we'll have somebody come to us and say, I need something like an inventory manager, but it has to also do these 1, 2, 3 weird things. Do you have that template? I'm like, no, we can't have it. We have, you know, like 70 something templates, but we can't have one for every use case. And I say, but we don't need one. You can just write what you told me via email into the AI assistant. And there you go. You can start with a template.
That's very interesting.
Adapting the AI to make your product even more flexible.
Yeah, but this is just scratching the surface. What we really want to do, but we just don't know if the LLMs are there yet, is import a complicated Excel into the AI and then kind of explain what it does, have it read it, and then based on that file, recreate it in Grist. That'd be the sweet spot.
Making the LLM understand what the Excel did.
Yeah.
Yeah. That's complex.
It is. It's complex, especially since usually the people who build them can't explain them. So, yeah.
Because if you get an Excel that isn't yours, it is really complicated to try to understand what it does.
Yes. Yeah. I tried it recently. Like, I have huge financial document with my investment needs, and it's quite impossible still yet for an AI to well analyze your documents.
Yeah.
With like, I don't know, 30 onglets.
Yep.
I think it's quite important because it's not words, so the lack of context. So I think the lack of context to understand what's happening about. I met some people working on new kind of models to working only with numbers. But each time the problem they have is the lack of context of what does this document is for. Because it's not, a lot of things are implicit in the document.
Yeah.
Well, before finishing our podcast, I would like you to, if you want our people who are listening to remember one thing about Grist and one thing about Alpha Edge, what will it be in one phrase? What it should be interesting to keep an eye on Alpha Edge?
Yes. We want people to know that it's possible to have an AI cheaper, to have an AI sovereign. We can have all tech in Europe. So believe in company like us, because the future of AI is quite possible for a few company like us, but maybe like you, if you want to build your own AI, believe in the future and work with research and technology.
I think AI will be a lot of drop of price of how we create the AI. So we will have the design to cost phase of AI starting soon. And basically it's the way of life of Alpha Edge. So it will be very interesting to look at this.
Yes.
Thank you. And Anaïs, about Grist?
Yeah, I'd say for Grist, what I want people to know is there's been a wave of spreadsheet, no-code platforms like Airtable and Notion. And in doing that, we gave up a lot of control and privacy. And you don't need to. I didn't talk about it enough, but a big value of Grist is the security, the data control, the portability. And that if you want to take control of your data, whether it's a small spreadsheet or a full app, that Grist is, that's a big part of our focus. Yeah.
Thank you very much. Thank you, Anaïs. Thank you, Fabian. Thank you, Kantan, for being there for this Massey 150. And thank you, everybody, for listening. See you next time. Bye.
Thank you.
Bye. Bye.